Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de comment on mesure l'impact environnemental de sites web. Donc, pour vous parler dans cette émission, je suis accompagné d'Adrien, de Camille et de Stéphane Croza. Je vais vous laisser vous présenter tour à tour. Adrien, si tu veux commencer.
Oui, alors moi je suis un étudiant en génie informatique à l'UTC. Et donc voilà, je participais à ce projet sur les mesures d'impact des sites web environnementaux. Je m'intéresse à la question finalement depuis assez peu de temps, un an environ, avec un stage que j'ai fait sur le sujet de l'environnement et de l'informatique.
Moi c'est Camille, je suis étudiante en génie informatique à l'UTC également, en quatrième année. Je suis relativement, en tout cas avant ce projet, j'étais relativement novice sur le sujet de l'impact environnemental du numérique, mais j'ai toujours une sensibilité à la question environnementale depuis beaucoup plus longtemps, quoi.
Bonjour, donc je suis Stéphane, je suis enseignant-chercheur ici à l'UTC en informatique et je m'intéresse notamment aux questions liées aux enjeux du numérique depuis quelques temps. Donc également, on a été accompagné dans ce travail par Benjamin Lucier, également enseignant-chercheur à l'UTC.
Et moi donc c'est Pierre Larocca, je fais également partie de la TX, je suis étudiant à l'UTC en génie informatique. Je m'intéresse à toutes ces questions qui lient environnement, numérique. Et donc, pouvoir vous parler de ce projet, bah, c'est super chouette parce qu'on va vous présenter un peu les résultats d'un travail de 6 mois qu'on a fait autour de toutes les questions environnementales et concernant les sites web, qui est un sujet qui est passionnant et qui émerge aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus loin, voilà, on voulait signaler qu'on n'est pas des experts. C'est avant tout un projet amateur réalisé par des étudiants dans un temps limité, donc sur moins une durée de 6 mois. Mais, comme je l'ai dit, l'environnement et numérique, c'est aujourd'hui des questions qui émergent. Il y a beaucoup d'initiatives. C'est un domaine qui est très complexe et qui remet en cause beaucoup de questions autour de l'environnement actuel, notamment sur le fait, et pour parler de numérique, qu'au départ, le numérique ne s'est pas du tout intéressé aux questions environnementales. C'est complètement monter à côté et aujourd'hui doit faire face aux enjeux écologiques, aux enjeux environnementaux. C'est une question qui est très difficile. Avant d'attaquer un peu sur le travail, peut-être qu'on peut poser une première question donc à Stéphane Croza. C'est pourquoi avoir proposé un tel projet puisque finalement, nous, on l'a rejoint suite à votre proposition.
Alors, l'idée, c'est que comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je commence à être sensible aux questions écologiques, comme tu l'as mentionné. Comme tu l'as mentionné également, le couplage écologie-informatique, on va dire, est assez récent. J'ai longtemps travaillé dans ce domaine sans faire forcément de lien entre ces deux questions. Aujourd'hui, donc, le lien commence à se faire par divers biais dont vous allez probablement reparler tout à l'heure. Mais du coup, comme assez souvent avec ces questions également, on ne sait pas forcément quoi en faire une fois qu'on est sensibilisé, qu'on a compris qu'il y avait un problème, on ne sait pas forcément quoi en faire. Et disons qu'en tant que prof d'informatique, ce que je peux faire à un moment, c'est enseigner de l'informatique. Et donc du coup, une des questions, c'était comment enseigner de l'informatique qui aille dans le bon sens. Alors, c'est quoi le bon sens? Ça reste une question un peu compliquée, mais avec un certain nombre de collègues ici à l'UTC, il y a un mot-clé qui commence à sortir qui me va bien, c'est celui de l'autotechnicisation. C'est-à-dire que l'enjeu est d'essayer de voir comment on peut continuer de faire des choses, continuer de faire de l'informatique, mais en essayant de faire de l'informatique qui requiert moins de high-tech ou qui aille pas tout le temps dans le sens d'une augmentation des capacités matérielles, de la complexité logicielle, etc., etc. Des choses dont on va, voilà, enfin, je vais pas forcément réapprofondir tout ça. Mais donc, l'idée était de chercher des pistes pour faire des choses concrètes qui aillent dans ce sens-là. Et c'est là où j'ai proposé ce sujet autour du développement web, puisque c'est une des choses que je connais un petit peu. Et donc, une des questions que je me posais, c'était, est-ce que demain on serait capable de commencer à enseigner du développement web qui irait dans le sens d'une low-technicisation, c'est-à-dire de choses moins complexes, plus accessibles, plus durables, plus soutenables.
Je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement.
Très bien, on peut commencer déjà par parler un peu de l'impact environnemental du numérique globalement avant de s'attaquer au site web. Donc nous, on a essayé finalement de rassembler ce qui avait été fait aujourd'hui comme étude sur l'impact environnemental du numérique. Aujourd'hui, on l'estime à entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, par exemple. Donc, selon l'ARCEP, dans un rapport pour un numérique soutenable, on a ces chiffres de 3 à 4%. Mais les gaz à effet de serre, ce n'est pas le seul critères d'impact environnemental. Il y en a de nombreux, et notamment la consommation d'eau douce. Pour ce qui est des data centers, on a une consommation assez importante dans le cadre du numérique. Et les métaux rares, qui sont extraits en grande quantité, et on a des problèmes de raréfaction des métaux qui vont se poser dans les années à venir. On parle de l'horizon 2030-2040. Par exemple, dans la face cachée du numérique de l'ADEME, on a ce chiffre de 70 matériaux différents dans un smartphone. Donc un smartphone, l'objet qu'on utilise tous les jours, on voit bien qu'il est, qu'il requiert beaucoup de matériaux, donc c'est un objet complexe. Et les études qu'on peut trouver aujourd'hui, donc qui sont faites par Ganality.fr, par The Shift Project et par l'ADEME, en France en tout cas, elles détaillent aussi les impacts en fonction de l'usage et de la fabrication. On distingue ces deux phases-là, avec des études qui s'accordent à dire que c'est autour de 60% pour la phase d'usage et 40% pour la phase de fabrication. Et on a une autre séparation qui peut être faite plus orientée architecture ou technique, où on va avoir les utilisateurs, donc terminaux utilisateurs, l'architecture réseau et la partie serveur. Et là, les répartitions donc, d'émissions et de consommation énergétique sont un peu plus disparates et il y a moins d'accord sur les valeurs qui sont trouvées. Donc c'est plus difficile de donner un chiffre précis.
Tu parlais que l'impact du numérique, c'était 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Tu aurais peut-être des chiffres de comparaison par rapport à d'autres systèmes qu'on connaît, parce que 4% c'est quoi finalement ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, on situe l'impact environnemental de l'aviation à environ 2% et l'automobile serait autour de 4%. Donc voilà, aujourd'hui, le numérique se place un peu entre les deux et on tend vers du 4% dans les années à venir, puisque le numérique est en développement, en croissance. Je crois qu'on est autour de 10% en termes de croissance au niveau de tout ce qui est économie du numérique. Donc voilà, on tend vers les mêmes émissions que toute l'automobile à l'échelle mondiale.
Comprendre un peu mieux l'impact environnemental numérique, il faut aussi se pencher sur la question du matériel, de la matérialité du numérique. Et pour ça, peut-être un élément clé à avoir en tête, c'est l'obsolescence programmée. Vous avez dû déjà probablement en entendre parler. C'est un ensemble de techniques qui vise à réduire délibérément la durée de vie des produits et en particulier des terminaux informatiques, des smartphones notamment et des ordinateurs, le tout pour augmenter leur taux de remplacement. Parce que si votre ordinateur il dure 2 ans au lieu de 10, il faut que vous en rachetiez un tous les 2 ans et mécaniquement, ça augmente le profit des entreprises qui en vendent. Et par exemple, pour revenir au smartphone, d'après l'ADEME, en moyenne, on change de smartphone tous les 2 ans, alors que 9 fois sur 10, l'ancien marchait encore. Mais alors, vous allez me dire, souvent, il est hyper lent. Et au bout de 2 ans, mon téléphone, il est archi lent, je ne peux plus rien faire avec. Et en fait, ça va être dû à un phénomène qui s'appelle obésiciel, on peut aussi le trouver sous le nom de bloatware en anglais. Et sous ce nom, on retrouve en fait une tendance à la complexification des programmes au cours de leur cycle de vie. Et ça correspond en fait à... Ça se caractérise par un accroissement des ressources qui sont nécessaires à l'exécution du logiciel. Donc, pour un smartphone, ça va être les applications qui sont dedans, mais pour un ordinateur, ça peut être les différents programmes que vous avez dessus. Et in fine, en fait, ça mène à un ralentissement des terminaux. Un exemple qu'on peut donner, c'est que en 10 ans, la puissance de calcul et des capacités des équipements informatiques, elles ont grandement évolué. Notamment, on peut parler de la loi de Moore qui dit que la puissance des microprocesseurs augmente double, je crois, tous les 2 ans, c'est ça, oui.
Oui, il me semble que c'est ça, effectivement.
Okay, parfait. Et donc, en 10 ans, ça a énormément augmenté. Et pour autant, en fait, le temps de chargement des pages web, en 10 ans, n'a absolument pas progressé. Je crois qu'il y avait un autre exemple, c'était le fait que depuis Windows XP, la puissance qui est nécessaire pour faire tourner Microsoft Word, elle est genre 100 fois plus grande, alors qu'en fait, on fait toujours la même chose, c'est-à-dire taper du texte, quoi. Donc bref, Tout ça, ça, à tout cela s'ajoute un certain nombre de boucles de rétroaction et d'effets rebonds. Un effet rebond, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que, en fait, on pourrait penser que quand on gagne en efficacité avec un système technique, et donc par exemple là, un exemple d'effet rebond pour l'informatique, pour le numérique, ça va être se dire, ok, on a des microprocesseurs plus puissants, donc en fait, on va avoir besoin de peut-être moins d'énergie ou pour faire tourner un programme. Et en fait, ben non, pas du tout, parce que on va juste en profiter pour, comme ça coûte moins cher en fait de développer des logiciels, on va juste en profiter pour moins optimiser les logiciels, et puisque de toute façon ça va tourner quand même.
À propos de l'information que tu as citée, Adrien, sur le fait que la répartition entre terminaux, serveurs et réseaux était pas, enfin il y avait pas de consensus à ce sujet. Je crois quand même qu'il y a un relatif consensus sur le fait que ce sont trois postes qui sont significatifs, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un que l'on peut écarter complètement en disant bah, celui-là n'aurait aucun importance. Je crois qu'en général le réseau est plutôt minoré, mais on le trouve quand même dans des trucs, enfin dans des ordres de grandeur de l'ordre de 10-20%. Donc on peut pas l'ignorer a priori, n'est-ce pas hein?
Oui, c'est ça. Il y en a vraiment aucun des trois qui est négligeable. On va avoir le réseau qui va plus tourner autour de 20%, les équipements utilisateurs qui sont un peu plus élevés, qui vont être entre 30 et 60%. Et les centres de données qui sont autour de 40%, quelque chose de cet ordre-là.
Et à propos de la loi de Moore, donc je crois que c'était plutôt tous les ans même le doublement, donc c'est encore plus rapide que ce que tu citais. Peut-être aussi qu'on peut souligner que c'est intéressant parce que c'est une loi exponentielle, et effectivement dans le domaine de l'écologie, on retrouve beaucoup cette notion d'exponentielle, c'est-à-dire doubler tous les deux ans. Bah, tout compte fait, dit comme ça, en fait, ça paraît pas forcément si impressionnant que ça. Mais en fait, si on fait le calcul rapide ou qu'on le pique sur Wikipédia, on s'apercevra qu'en 30 ans, alors je l'ai piqué un peu rapidement, donc je suis pas sûr et certain, on ira vérifier, mais en 30 ans, je crois que c'est une multiplication par 1 million. Donc en fait, ce doublement systématique, ce doublement régulier, pardon, conduit en fait à des ordres de grandeur très très grands. Hein, c'est l'histoire du jeu d'échecs et des grains de blé, si on connaît l'anecdote, mais si vous vous amusez à multiplier le nombre de grains de blé, enfin, à mettre un grain de blé sur la première case d'un jeu d'échecs et à le multiplier sur chacune des cases, eh bien, vous arriverez à 2 puissance 64, et 2 puissance 64, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Effectivement, maintenant qu'on commence à parler de mesures et de chiffres, avant d'aller plus loin, il faut se demander à quoi ça sert des mesures. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une démarche scientifique, la mesure, c'est quelque chose de fondamental. C'est une approche qui permet de quantifier des phénomènes, on l'a dit, c'est ce qui nous permet de nous dire que... ça double tous les deux ans avec la loi de Moore, et qu'en fait, si on additionne sur des années, ça commence à faire des chiffres impressionnants. Et alors que historiquement, ça a longtemps été pour mesurer des choses qui étaient physiques, maintenant, avec les enjeux du numérique, ça remet complètement en question cette question de la mesure, puisqu'effectivement, il faut continuer à mesurer, mais on mesure des choses qui sont nettement moins concrètes. Une donnée, c'est quoi? On n'arrive pas à le voir, c'est pas aussi facile qu'un grain de riz, quoi. Cette mesure, elle va permettre de manipuler les choses, de les penser et surtout de les comparer. Ce qui est super important dans un travail scientifique, surtout en tradition occidentale. En gros, quand on sait mesurer, on a des arguments, donc on peut légitimer ses positions. La science, elle s'est donc constituée en grande partie par la mesure. C'est exactement la même chose pour l'écologie, notamment les travaux du GIEC qui permettent de mettre en avant ce qu'il faudrait prioriser au niveau des urgences, de légitimer certaines actions. Et donc, quand on parle d'environnement et de numérique, eh bien, d'entrée, on pose cette question des mesures qui est fondamentale. Et un truc qui est aujourd'hui qu'on constate à travers les recherches qu'on a faites autour de notre projet, c'est qu'il y a beaucoup de modèles, mais aujourd'hui, peut-être que c'est lié au fait que ce soit des préoccupations récentes dans le numérique, comme on l'a dit, peut-être que c'est lié au fait qu'on est face à un objet qui change complètement les rapports qu'on avait. On est plus sur de la matérialité, ou alors en fait on a quelque chose de très matériel mais qui a été complètement invisibilisé, et quand on utilise un smartphone, on n'a pas conscience du data center à l'autre bout du monde qui fonctionne pour nous fournir notre requête, par exemple une requête Wikipédia, et tout ça c'est complètement invisibilisé, et donc eh bien on n'a pas du tout on mesure pas du tout le poids que ça a, la matérialité que ça a, et donc cette mesure, elle est importante puisqu'elle permet de mettre ça en avant. Par contre, donc il n'y a pas vraiment de consensus de méthode, ni d'objectivité dans les résultats, comme on a dit, c'est un domaine récent et c'est très compliqué, c'est un objet qui est très complexe, le numérique. La posture des recherches, c'est beaucoup une posture de prudence. Donc les chiffres qui sont énoncés doivent être pris avec un certain recul. Et c'est surtout, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des premières indications, des ordres de grandeur un peu généraux, mais partiels, forcément sur des modèles simples. Et donc, c'est important de faire attention à toutes les métriques et à la manière dont on les interprète, puisqu'elles sont à la fois essentielles, puisqu'elles permettent de légitimer et de montrer un petit peu comment ça se passe, mais en même temps, ça peut permettre d'autres biais sur lesquels on aura l'occasion de revenir, mais notamment du greenwashing. Pour arrêter toute idée de base à ce niveau-là, le web, c'est pas écologique, et donc la posture la plus sage, c'est d'essayer d'aller vers de la sobriété. Ça peut passer par limiter les usages qu'on en a et augmenter les temps d'utilisation des différents outils. Mais en tout cas, l'idée d'un web vert, d'un internet vert, et du numérique vert, faut aujourd'hui complètement les dépasser pour pouvoir mieux les remettre en question et espérer avoir quelque chose d'un peu plus propre qui nous permette d'être un peu plus résilients. Maintenant qu'on vous a posé un petit peu ce cadre, on va passer un peu plus dans le détail de nos travaux. Et puisqu'on a parlé de mesures, on va commencer à parler de métriques. Je te laisse la parole, Adrien.
En effet, oui. Ben nous, la première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on mesure sur un site web, puisque tu l'as dit, un site web, c'est pas directement matériel, ça repose sur plein de choses différentes. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer déjà, qu'est-ce qu'un site web? Donc, dans le cas le plus simple, ça va être une page HTML, un document, donc avec des balises. Et dans le cas le plus courant, où là ça va être un peu plus complexe, on va avoir cette page HTML, ce document HTML, qui va être accompagné de différents fichiers, des fichiers JavaScript qui vont permettre à la page d'être dynamique, des fichiers CSS qui vont permettre de donner du style, donc un aspect graphique à la page web, au site web, et tout ce qu'on peut avoir sur un site web, du contenu vidéo, des images, des polices. Et donc, comment est-ce qu'on mesure tout ça? Comment est-ce qu'on mesure l'impact environnemental de ces documents, de ces fichiers qui sont en transit et qui sont chargés sur nos ordinateurs, sur nos téléphones? Donc il y a des métriques qui existent. Aujourd'hui, notamment, pour mesurer les performances d'un site web, on utilise le temps de chargement, savoir en combien de temps il est chargé. Il est chargé entièrement ou combien de temps il met pour déjà apparaître à l'écran. On utilise le DOM, le Document Object Model, qui est le nombre d'éléments de ce DOM, ça va être le nombre d'éléments dans notre document HTML. Ça va nous donner une ordre d'idée de la complexité qui est nécessaire au navigateur pour le charger. On a le nombre de requêtes qui va donc être le nombre de requêtes qui vont être faites vers un serveur pour charger les fichiers disponibles sur ce serveur jusqu'à notre terminal, notre téléphone, notre ordinateur, et le poids de la page. Alors, le poids de la page, c'est pas forcément évident comme ça. Est-ce que, Pierre, tu pourrais un peu nous expliquer ce qui se passe derrière cette métrique-là?
Effectivement, oui. Alors, derrière le poids de la page, donc, de manière un peu naïve, ça va être le poids des différentes requêtes qui sont faites, et on somme tout ça pour obtenir un poids. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On a notamment deux types de poids différents. On a ce qu'on appelle le poids transféré et le poids chargé. Quand un serveur envoie une réponse, par exemple, à une requête qu'on lui a faite, cette réponse, elle va être faite de manière compressée pour que ça prenne un peu moins de place. Donc, c'est ce qu'on appelle le poids transféré. C'est un poids qui est un peu moins important. Et on a le poids chargé. Le poids chargé, c'est une fois que ça arrive à la machine et que ça va être décompressé, ça pèse un petit peu plus lourd. Et c'est finalement donc, ouais, le poids de la requête, c'est-à-dire de son en-tête, mais également de son contenu.
Oui, merci pour la précision. Et donc là, nous, on a choisi, dans le cadre de notre travail, de sélectionner trois métriques. Alors pourquoi ces métriques? Parce que, comme on va le voir plus tard, c'est ceux qui sont principalement utilisés dans les outils qu'on a trouvés lors de notre état de l'art. Mais il y en existe d'autres que je n'ai pas cités, notamment qui essayent d'évaluer plutôt le JavaScript ou le CSS. Donc nous, on va se concentrer sur le nombre d'éléments du DOM, le nombre de requêtes et le poids de la page, le poids transféré. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'on pouvait mesurer sur un site web, il faut se poser la question de comment est-ce que ça, on le lie avec un impact environnemental, parce que il n'y a pas un lien évident entre le nombre de balises sur un document HTML et le nombre de CO2 ou d'eau consommée par le data center qui est en lien avec ce site web. Et donc pour ça, on va voir comment les outils qu'on a trouvés exploitent ces métriques pour évaluer l'impact environnemental d'un site web. Donc nous, on a fait un petit état de l'art pendant notre projet. C'était au début de notre projet pour voir ce qui existait aujourd'hui. Et on a trouvé donc trois catégories, on va dire, d'outils. On peut définir trois catégories. Des outils donc, de performance qui sont aujourd'hui répandus et qui sont utilisés par les développeurs pour évaluer les performances de leur site web, savoir si ils sont justement chargés rapidement sur les terminaux, quelque type qu'ils soient. Des outils environnementaux qui, là, sont beaucoup moins nombreux. On va parler d'EcoIndex, on va parler de Green IT Analysis, de Website Carbon. C'est des outils qui sont souvent récents, qui datent au plus tôt des années 2010-2015. Et un dernier type d'outils qui sont les outils de développement qui sont fournis par les navigateurs, donc Chrome, Firefox notamment. La première catégorie, donc les outils de performance, on en a sélectionné trois qui sont GTmetrix, Pingdom et Yellow Lab Tool. Et donc leur fonctionnement est relativement simple. On entre une URL sur la page de cet outil et l'outil va, à l'aide d'un serveur distant, charger la page, donc l'URL de l'URL qui est précisée, et donner les résultats de performance, donc le nombre d'éléments du DOM, le poids de la page, etc. Et donc l'intérêt, c'est qu'après, on va pouvoir exploiter ces métriques-là, essayer d'améliorer son site et d'optimiser les performances. Et les autres catégories, donc les outils de développement, eux, vont être un peu différents. Est-ce que, Pierre, tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne, comment on utilise les outils de développement de Firefox ou Chrome ?
Oui, effectivement, au niveau des outils de développement qu'on a utilisés, donc on a utilisé ce qu'on appelle les DevTools. C'est une suite d'outils. Nous, on en a utilisé surtout deux, qui sont la console et un onglet de mesure réseau. Et ces outils sont inclus dans tous les navigateurs. Ça permet de pouvoir faire des mesures directement depuis nos ordinateurs, depuis notre navigateur, et donc d'avoir un truc en temps réel, assez précis, c'est très très chouette. En fonction de la page qu'on visite, effectivement, on peut régler différents paramètres, si on veut mettre ou non du cache, si on veut enregistrer les mesures précédentes pour pouvoir faire des sommations, et avoir, par exemple, dans le cas d'un parcours de différentes pages, c'est la manière dont généralement on utilise un site web. On reste pas sur une page, on clique, on se promène. Parfois, on s'est planté, on retourne en arrière. Et ben ça, on peut le mesurer en faisant cette sommation. Et donc ces outils mesurent. Donc par exemple, dans le cas de la console, on peut demander à afficher le nombre d'éléments du DOM sous la forme d'une commande et il nous le renvoie pour chaque site web. Au niveau des onglets réseau, de l'onglet network. Eh bien, on a plus des informations comme le poids de la page, le poids de chaque requête qui est effectuée. Donc, on parlait de la différence entre poids transféré et poids chargé. Eh bien, elle est distinguée. Le temps de chargement de chacune des requêtes, leur temps de déclenchement. On peut accéder également au code source de la page, même si nous, ça nous a été un peu moins pratique. Bref, c'est vraiment une suite d'outils qui sont super complets, super complexes, et qui permettent de faire plein de choses. Bah, voilà, complexe en mode, ils permettent de faire plein de choses et pas, je ne sais pas les utiliser, parce qu'en soi, c'est bête comme chou. On fait nos mesures et ça nous les affiche, mais voilà. Donc, c'est assez pratique et nous, on s'en est pas mal servi. Plus ou moins en tant qu'outil, on va dire, dans lequel on avait le plus confiance, puisque c'était un outil dit bas niveau, assez proche de nos machines. Voilà. Je ne sais pas si ça te convient comme réponse.
Oui, c'est exactement ça, et finalement on peut y accéder très facilement. Je crois que c'est la touche F12 sur tous les navigateurs, donc qui ouvre tous les onglets dont Pierre a parlé, onglet réseau, onglet console. Donc c'est vraiment juste là, caché derrière toutes les pages web qu'on utilise, accessible partout. Ensuite, on peut parler donc des outils qui sont eux un peu différents, puisqu'ils vont utiliser des métriques pour fournir un impact environnemental. Donc ils vont se servir de ces métriques de performance pour donner une donnée, donc souvent impact carbone, hein, ça, c'est le plus simple et le critère le plus utilisé aujourd'hui. Eux, ils sont moins nombreux parce que, comme on l'a dit avant, c'est des préoccupations qui sont très récentes et c'est pas facile aujourd'hui de... On peut en parler maintenant qu'on s'est penché sur la question. C'est pas facile de développer des outils qui mesurent un impact environnemental d'un site web. Et il y en a deux sur lesquels on s'est vraiment penché. C'est Green IT Analysis, qui est donc une extension de navigateur basée sur l'EcoIndex, et Website Carbon, qui est un outil développé par Walgreen Digital. Est-ce que Camille, tu peux nous parler un petit peu des méthodologies de ces deux outils-là ?
Alors, l'outil Green IT Analysis, il se base sur sur deux méthodes, enfin deux outils donc, que tu as cités, l'éco-index et puis aussi l'éco-metteur. L'éco-metteur ne va pas nous intéresser tellement parce qu'en fait, ça donne un ensemble de... Ça dit si un site vérifie un certain nombre de bonnes pratiques d'éco-conception. Et en l'occurrence, ce n'est pas tellement ça qui nous intéressait durant le projet. Donc, on va s'intéresser surtout à la partie éco-index. Et du coup, qu'est-ce que c'est éco-index ? C'est une méthode de calcul d'impact environnemental pour les sites web. Et l'idée, c'est de quantifier les impacts environnementaux d'un parcours utilisateur complet. Donc, ça a été développé par les membres du collectif Green IT. Et alors, la méthode de calcul, ça se base sur trois éléments qu'on a cités. Le nombre d'éléments du DOM, le poids de la page transférée, je crois, c'est ça, hein, et le nombre de requêtes. Et en fait, à partir de ça, ils ont mis au point une fonction qui pondère en fait ces trois métriques et ça donne un score entre 0 et 100. Et à partir de ce score, ça va donner un équivalent d'émissions de gaz de GES et de consommation d'eau douce. Website Carbon Calculator, c'est un autre outil. Et il va aussi donner une quantité d'équivalent CO2. Ça va donner une quantité d'équivalent CO2 pour un an. Et il se base sur un petit peu plus de métriques, donc les données, donc le poids de la page en gros, les données transférées, mais également l'intensité énergétique des données, le type de source d'énergie utilisée par les centres de données et le trafic estimé du site, c'est-à-dire plus ou moins le nombre de visites annuelles, sachant que ça, c'est des données qui sortent un peu de leur chapeau, en gros, quoi. Enfin, ils font une moyenne, mais qui est pas spécialement significative. Et en fait, cet outil, en fin de compte, il donne également un positionnement relatif par rapport aux autres sites qui ont été testés. Donc ça va vous dire, votre site fait partie des 10% les moins polluants qu'on a testés. Voilà, est-ce que ça répond à ta question, Adrien ?
Oui, c'est ça. On voit déjà que donc tout n'est pas transparent sur la manière dont c'est fait, et on peut retrouver quand même des explications sur les méthodologies, les formules qui sont employées par ces deux outils, et notamment Website Carbon, donc dans son calcul, comme tu l'as dit, utilise donc des chiffres, des facteurs d'émission qui font parfois un peu débat, notamment Gauthier Roussil dans Situer le numérique, dans le second cahier, a fait un état de l'art de toutes les facteurs d'émission pour quantifier l'intensité énergétique de la donnée, donc combien de kilowattheures pour transférer 1 gigaoctet. Et donc cette donnée, il me semble que la donnée utilisée par Website Carbon est une des études, mais il y a beaucoup d'études et le facteur de différence entre les différentes études parfois varie de 10 fois 10, voire même fois 30, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on peut remettre en cause finalement les méthodologies de ces outils-là. Ils ne sont pas parfaits, on va montrer qu'ils ont certaines limites. Et qui permettent de mesurer l'impact environnemental, mais avec beaucoup d'imprécision. On va essayer de voir ce que nous, on a mis en œuvre dans le cadre de l'ATX pour essayer de montrer ces limites-là.
Ok, donc je vais essayer de vous retracer un peu maintenant notre cheminement sur cette question des mesures. On a commencé par, au départ, vraiment s'intéresser à comment mesurer l'impact environnemental du numérique d'un site web, et du coup pour ça on a vraiment au début focus sur les outils de mesure d'impact. Donc on s'est concentré sur Eco-Index, Green IT, c'est la même chose, et Website Carbon Calculator. Et au début on était un peu dans le tâtonnement, on s'est dit ok, on va voir déjà, on va faire quelques tests et on va voir s'ils donnent des résultats un peu cohérents ou si en fait ça n'a rien à voir et c'est pas du tout c'était un peu pour tester la fiabilité quoi de ces deux outils là et en fait ça a pas manqué. On a trouvé des résultats assez peu cohérents et puis parfois carrément aberrants. En soi, quand l'outil Green IT nous disait ok, bon, ce site est vraiment dégueu, Website Carbon Calculator nous disait oui, c'est vrai, il est vraiment dégueu. Par contre, donc là-dessus, ils étaient d'accord. Par contre, quand on regardait du côté des équivalents GES, on trouvait des choses complètement différentes pour un même site. Eco-Index pouvait nous dire c'est tant, et puis Website Carbon Calculator nous dire non, c'est, en fait, c'est 4 fois plus.
L'idée, en gros, c'est qu'on a... Aujourd'hui, on dit que c'est un estimateur de gaz à effet de serre, mais en fait, genre, c'est pas vraiment... Derrière, il y a des trucs, quoi. C'est une formule, plutôt. C'est ça, c'est pas vrai.
Oui, exactement. En fait, ça se base donc sur leur formule, et leurs formules, elles sont... Enfin, on en discutera un petit peu plus tard, mais je dirais pas que c'est arbitraire, mais en tout cas, c'est entièrement discutable la manière dont sont calculés, à partir de des différents trucs qu'ils utilisent, cet équivalent gaz à effet de serre.
Camille, tu as présenté ça en général. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, de chiffres à nous fournir?
Oui, eh bien, donc, je vais donner un petit exemple pour le site d'une fondation pour sauver les tortues, qui s'appelle la fondation Yepes. Pour ce site-là, l'outil EcoIndex comme l'outil Website Carbone sont d'accord pour dire que, grosso modo, c'est un site pourri au niveau environnemental. Le score EcoIndex est de 15 sur 100, donc c'est très mauvais, ça donne le score de F, je crois que c'est le score minimal. Et puis, Website Carbone Calculator nous dit qu'il est plus polluant que 90% des sites qui ont été testés. Donc, on voit bien qu'ils sont globalement d'accord pour nous dire que le site a un impact environnemental pourri. Par contre, quand on regarde du côté de l'équivalent gaz à effet de serre, ben là, on se rend compte qu'ils sont plus tellement d'accord. EcoIndex nous dit que, d'après ces évaluations, ce site rejette 2,7 grammes d'équivalent CO2, tandis que Website Carbon Calculator lui va dire bah non, c'est 10,31. Et en fait, c'est quand même un écart significatif. On est dans un rapport, une multiplication par 3. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec beaucoup d'autres sites. Je peux vous donner peut-être un autre exemple. Un site qu'Adrien a développé, qui est le site du Forum de l'ingénierie durable. Avec EcoIndex, on trouve un équivalent CO2 de 1,46 grammes, alors qu'à Website Carbon, on trouve 0,10. Donc on voit bien que là encore, il y a une grande différence, parce que cette fois, c'est pas Website Carbon Calculator qui donne un chiffre beaucoup plus haut. Website Carbon Calculator donne un chiffre beaucoup plus bas. Donc on sent qu'il y a un peu des incohérences. Et ça, tout ça, ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On va essayer de creuser un peu. Du coup, ces incohérences nous ont un peu amenés à nous demander sur quoi, en fait, se baser ces mesures et ces équivalents gaz à effet de serre. Du coup, on est allé regarder du côté des métriques utilisées. Donc, comme on l'a dit, les trois métriques principales, c'est notamment le poids de la page, le nombre d'éléments du DOM et le nombre de requêtes. Et là, on s'est dit, bon, une première étape, ça a essayé de voir s'ils mesurent la même chose avant de voir ce qu'ils font de ces métriques. Il faut être sûr qu'ils ont les mêmes données au départ. Donc pour ça, on est allé ensuite dans une deuxième approche, on est allé comparer en fait les données qu'ils obtenaient pour ces métriques-là, et en les comparant avec, cette fois-ci, en ajoutant les outils de développement, les DevTools dont on vous a parlé, et les outils de mesure de performance, GTmetrix, Yellow Lab Tools, Pingdom. Et on a mis en place une typologie de sites pour pouvoir les comparer. Donc, on a défini trois types de sites: les sites gouvernementaux, les sites marchands, par exemple Amazon, Cdiscount, etc. Et les sites d'information, en particulier des sites de presse, Le Monde, etc. Et l'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas comparer un site marchand et un site gouvernemental qui va avoir tendance à être plus statique, parce qu'ils ne remplissent pas les mêmes fonctions, ils ne vont pas avoir le même type de contenu, et du coup, fatalement, on va trouver des résultats relativement incohérents. Et donc, en mettant en place cette espèce de deuxième expérience, on a trouvé pas mal d'incohérences. Alors, il faut aussi préciser que le protocole n'était pas forcément super rigoureux à ce moment-là, mais il nous a quand même permis d'avoir une intuition qu'il y avait une distinction entre des outils qui prenaient en compte des éléments de chargement dynamique et des outils qui prenaient simplement en compte les éléments un peu statiques de la page. Donc là, on s'est dit, ah là, on tient un truc. On va faire des expériences pour creuser ce sujet. Je vais peut-être laisser la parole à Adrien là-dessus, si tu veux expliquer un peu.
Après avoir constaté qu'il y avait finalement probablement une différence entre des outils qui font une mesure statique à un instant T de la page et des outils qui font une mesure un peu plus dynamique, c'est-à-dire que si du contenu est chargé après une seconde ou au clic, au scroll, au survol, lorsque l'utilisateur se balade sur la page, tout simplement, ces outils dynamiques, eux, ils perçoivent et ils mesurent ces requêtes-là. Donc on a voulu voir lesquelles étaient vraiment dynamiques, lesquelles étaient statiques, qu'est-ce qui était pris en compte et pas pris en compte. Et comme on est des experts en développement JavaScript, c'est faux, mais avec nos faibles connaissances en JavaScript, on a essayé de charger dynamiquement du contenu sur une page qu'on a créée, donc avec simplement trois images, une qui était chargée en lazy loading, donc du chargement paresseux. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur arrive, donc descend, scroll, fait défiler la page et arrive sur l'image, c'est à ce moment-là qu'elle est chargée. C'est très utilisé sur les sites de presse, par exemple. Une image après un certain temps qui se charge une seconde après le chargement de la page. Et une image au scroll, c'est-à-dire dès que l'utilisateur utilise la molette de son souris, l'image apparaît, déclenchée donc dynamiquement. Et avec ces trois requêtes-là, qui sont des mécanismes JavaScript qui sont probablement très utilisé aujourd'hui, et il y en a peut-être beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas, puisqu'on n'est pas des développeurs professionnels. Et rien qu'avec ces trois requêtes-là, on a vu des grandes différences très intéressantes entre les outils. Notamment, par exemple, on est capable de faire un site qui charge trois très grosses images et qui a une empreinte de 0,00 g de CO2 sur Website Carbon. Donc on peut tout à fait imaginer qu'un développeur qui soit à la fois compétent et un peu pernicieux soit capable d'avoir la meilleure note sur tous les outils d'empreinte environnementale, alors que son site web a un impact tout à fait négatif.
En gros, là, tu es en train de dire qu'on arrive à tromper ces outils ?
En effet, je crois qu'on a trouvé une faille.
En ayant en tête cette faille et les limites de ces outils, on a mis en place un dernier protocole pour comparer donc, les deux outils. On a écarté tous les outils qu'on avait définis comme outils statiques. On a gardé que les outils qu'on a qualifiés de dynamiques. Donc, l'outil de Green IT Analysis, qui en fait se base sur les données, qui est censé se baser sur les données. De la console, des outils de développement et les outils de développement, justement. Et on a mis en place un protocole un peu plus rigoureux cette fois-ci en essayant de limiter au maximum les éléments de variabilité. Donc, on a essayé de faire les tests sur une même machine avec une même connexion de la manière la plus simultanée possible. Et on est allé comparer ces deux outils pour voir si, voilà, est-ce qu'ils nous donnent les mêmes métriques ou non. Et on a, en passant, remis un peu en question la notion de page web en tant qu'élément unique et distinct. Parce que, en fait, est-ce qu'on peut toujours parler de page web, par exemple, quand on a des pages avec du scroll infini ? On peut parler de page web quand on a une page avec tellement d'éléments dynamiques qu'en fait, tout le site web se résume à une page ? Est-ce qu'on peut comparer une page web si, dans un site, il faut se balader sur 10 pages et cliquer 10 fois pour avoir la même information que si on était resté sur... comparé à une page qui serait plus lourde, mais qui donnerait toutes les informations d'un coup. Donc tout ça, ça nous a amené à remettre en question un peu la notion de page web. Et du coup, au lieu de cette fois-ci, donc au lieu de mesurer des pages, cette fois-ci, on s'est dit on va mesurer un parcours utilisateur. Et du coup, on a défini des cas d'usage, donc des parcours d'utilisateurs associés à chaque type de site. Donc pour les sites marchands, ça a été de simuler, on va dire, le parcours d'un utilisateur qui va chercher à acheter un objet précis. Donc il va arriver sur la page d'accueil, taper un mot-clé dans la barre de recherche, scroller un petit peu jusqu'à trouver quelque chose de pertinent, cliquer dessus, lire les informations. Et puis, pour les sites gouvernementaux, on s'est dit qu'on allait simuler l'accès à l'information sur les compositions du gouvernement. Donc, ça implique d'aller sur la page d'accueil du gouvernement et puis ensuite de naviguer à travers les barres de recherche et les différents menus jusqu'à trouver la composition du gouvernement. Je vous épargne les détails, mais ce qu'on arrive à la... Les conclusions auxquelles on arrive, c'est que globalement, en fait, il y a quand même une très bonne cohérence entre les mesures réalisées par l'outil Green IT et par les outils de développement, les DevTools. Et on trouve un écart de moins de 5% pour toutes les mesures, donc c'est assez peu. Il y a un écart systématique, on a systématiquement les mesures de l'outil Green IT Analysis qui sont un petit peu plus grandes que les outils développement.
Au niveau du poids de la page, c'est bien ça ?
En fait, dans tous les cas, mais en particulier au niveau du poids de la page, c'est beaucoup plus flagrant au niveau du poids de la page, parce que autant pour la taille du DOM et le nombre de requêtes, on peut l'expliquer par le fait qu'à chaque fois, durant nos expériences, on a d'abord mesuré avec l'outil GreenIT, et ensuite avec...
D'abord avec les DevTools, effectivement.
Oui, oui, voilà. D'abord avec les DevTools, et ensuite avec l'outil GreenIT, ce qui fait que... il peut y avoir entre les deux mesures certaines requêtes qui se sont chargées dans l'intervalle de temps. Cependant, ça n'explique pas complètement la différence qui est un petit peu plus grande au niveau du poids de la page.
Sur cette idée, je crois que on avait donc en plus de cette première hypothèse du temps, il y avait peut-être l'idée que, mais c'était complètement hypothétique, mais qu'il y a un effet de surcouche puisqu'on avait vu que GreenIT se basait en partie sur les résultats des DevTools et donc peut-être que en manipulant un petit peu, mais ça, pour ça, il faudrait connaître davantage le code. Il y a peut-être quelque chose qui explique qu'il y ait des petits écarts, effectivement, c'est tout.
Donc voilà pour nos conclusions. Donc une grande cohérence, donc c'est plutôt rassurant et au final pas si étonnant. Donc c'est, en soi, ça peut paraître rien de montrer que l'outil GreenIT fait ce qu'il dit, c'est-à-dire se baser sur la console. Cependant, ça nous permet quand même de dire que si on prend la console comme outil de référence, eh bien on peut dire que l'outil de GreenIT Analysis fait des mesures relativement fiables et cohérentes.
Pour résumer un peu globalement ce qu'on a fait, finalement là, on a vu au cours de notre travail que dans des conditions optimales, c'est-à-dire donc comme tu l'as dit, des mêmes machines, un type de connexion proche, un respect des protocoles et plusieurs répétitions pour pouvoir faire des statistiques assez fiables, et ben on aboutit à des résultats qui sont globalement cohérents. Mais par contre, on a quand même observé qu'il y avait des limites assez importantes au niveau des différents outils qu'on a testés. Et il devrait plus être vu comme un support de sensibilisation avec une approche très large pour donner des grandes idées qu'une analyse précise, fine et rigoureuse des métriques qui sont utilisées. L'exemple qu'on a dit, qui est assez parlant, c'était sa différence entre des outils dynamiques et des outils statiques. Donc effectivement, les outils statiques sont moins capables de prendre en compte le changement en temps réel d'une page, son évolution, puisqu'ils prennent en compte que les mesures qui ont été faites avant, finalement, et encore, puisque les mesures, elles sont faites au début du chargement, on ne peut pas vraiment compter sur eux pour montrer l'évolution. Par contre, comme ces outils statiques, en fait, on passe par des plateformes, donc c'est fait par d'autres serveurs, et c'est des mesures qui sont faites finalement par d'autres ordinateurs que les nôtres, on peut dire que c'est un peu plus objectif, puisque finalement, c'est dans des conditions... les conditions ne changent pas, l'ordinateur reste le même, les temps et l'endroit de la connexion, tout ça, ça reste toujours pareil, ça ne varie pas, donc... de ce point de vue-là, c'est un peu plus fiable. Et de l'autre côté, on a nos outils dynamiques, pardon, qui sont beaucoup plus réactifs, qui témoignent d'usage réel, puisque on peut évoluer sur le site. Quand on a un carrousel avec différentes images qui nous proposent des pubs de poussettes sur Amazon, eh bien, c'est pris en compte. Et on peut faire différents parcours, et ça, c'est super riche, puisque c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus réel. C'est comme ça qu'on utilise un peu plus... Le web, par contre, eh bien, c'est beaucoup plus dépendant de nos machines, de nos connexions, de l'endroit où on se trouve. Donc, il y a une tension à résoudre entre ces avantages et ces inconvénients des outils dynamiques, statiques. Peut-être qu'une possibilité d'aller plus loin, ce serait de passer par des machines virtuelles sur des serveurs, mais qu'on pourrait paramétrer, sur lesquels on aurait accès. Donc, ce qui nous permettrait de garder le contrôle, mais que nous offrent ces outils dynamiques, mais également d'avoir l'objectivité des outils statiques, au sens de la mesure et dans les conditions en tout cas de mesure sont plus proches. Avec tout ça, donc on est finalement capable d'effectuer des mesures et de les reproduire dans des conditions proches. Par contre, on n'est pas encore trop en mesure de lier ces dernières à des conséquences concrètes. Ça mène à la question des problèmes qui restent. Qu'on a mis en avant finalement au cours de notre travail, auxquels on n'a pas forcément de réponse, mais qui sont intéressants, ces points, ils sont intéressants à garder en tête, puisque ça pourrait permettre de futurs travaux, et c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on sait, mais également de savoir ce qu'on ne sait pas encore, pour pouvoir avancer. Tout d'abord, Bah Adrien, d'ailleurs, je vais te poser cette question. C'est que souvent, donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait mesurer ces métriques, mais on peut se demander si est-ce que ces métriques elles sont pertinentes. D'ailleurs, est-ce que c'est pertinent de se servir de ces métriques pour éco-concevoir un site web ?
C'est une bonne question, puisque nous, dans le cadre de notre projet, on ne s'est pas attardé là-dessus. On a fait confiance, entre guillemets, aux outils qu'on a utilisés. On a dit, il y a quand même une cohérence, tout le monde utilise à peu près les mêmes métriques. On va leur faire confiance, on va utiliser ces métriques aussi. Mais on peut questionner par exemple le fait que le nombre d'éléments du DOM soit vraiment en corrélation avec la consommation d'un ordinateur lorsqu'on parcourt la page web. Si ça se trouve, par exemple, ben déjà c'est pas forcément proportionnel. Réduire le nombre d'éléments du DOM va pas forcément impacter proportionnellement l'interprétation par le navigateur. Et quand on regarde finalement la consommation énergétique d'un terminal utilisateur, elle va probablement pas être proportionnelle au nombre d'éléments du DOM. Par exemple, un ordinateur déjà qui tourne à vide ou un ordinateur en veille, il va déjà avoir une consommation qui va pas être nulle. Donc quand on va essayer de voir les gains qui vont être faits en réduisant le nombre d'éléments du DOM, ils vont probablement être très faibles puisque la part de la consommation par le web, par le fait de naviguer sur un site va être très faible. Et donc nous, on a fait confiance à ces métriques-là, mais ils peuvent être remis en question. Et notamment, GreenIT, l'outil GreenIT d'EcoIndex, lui, utilise une formule qui est un peu arbitraire. On va pondérer les métriques et faire un petit tour de passe-passe pour avoir un score sur 0 à 100. Mais derrière, les justifications, elles ne sont pas évidentes. On pourrait tout à fait remettre en cause ces choix-là, notamment le fait de prendre ces trois métriques-là et de dire que le DOM représente à lui seul la consommation sur le client, que le nombre de requêtes représente la complexité au niveau des serveurs et que le poids de la page représente les impacts environnementaux sur le réseau.
D'ailleurs, sur cette question de la GreenIT, ce qui peut être aussi intéressant, par contre, eux, c'est qu'ils ont sorti un grand disclaimer où ils affirment que leur outil, c'est plus un outil de sensibilisation, et ils l'affirment, ils disent pas « nous, on a la vérité vraie ». Et donc, du coup, ils sont vraiment dans cette posture d'humilité, et c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas forcément tous les sites qui le font. Je pense notamment à Website Carbon, je crois que c'était Camille, t'en parlais un petit peu, effectivement.
Oui, Website Carbon Calculator, ils n'ont pas du tout cette posture qu'adopte EcoIndex, de dire notre outil n'est qu'un outil, est un outil de sensibilisation, mais pas il n'a pas vocation à donner la vérité vraie. Et je pense qu'on peut faire une sorte de distinguo entre au sein de ces outils de mesure d'impact, entre des outils qui auraient une fonction de sensibilisation, de prise de conscience, et auquel cas, c'est vrai que EcoIndex, comme Website Carbon Calculator, je pense, font le taf. Ça permet de donner une idée de quels sites sont dégueux et quels sites sont cool, que quand on va sur Amazon, mais en même temps, comme on peut s'en douter un petit peu, il y a des images qui popent de partout, la page met 10 secondes à charger, et du coup, on peut facilement se douter que l'impact doit pas être top, alors que un site avec quasiment que de l'HTML et du CSS, et ben, il est un peu plus clean. Donc voilà, il y a cette fonction de sensibilisation. Après, il y a une fonction, on va dire, un peu plus de mesure scientifique, quoi, pour voilà, connaître vraiment l'impact environnemental pour pouvoir ensuite déterminer un certain nombre de pratiques et puis pouvoir quantifier vraiment quel site fait quoi, etc. Bon, aucun des deux sites, en l'occurrence, ni Website Carbon Calculator, ni EcoIndex sont en mesure de le faire, sauf que là où EcoIndex le dit, Website Carbon Calculator le dit pas du tout.
T'amènes en fait un autre problème qu'on a observé sur cette idée de faire le lien. C'était un peu ce qu'on reprochait en disant que ça manquait de concret, mais faire le lien entre ces métriques et leur impact réel, c'est que finalement, donc là, on a un peu des métriques qui se baladent dans le vent et on ne sait pas, par exemple, mettre en lien donc ces mesures, ce use case et les consommations énergétiques. Et ça amène un autre truc aussi, c'est peut-être, est-ce qu'on pourrait mettre en corrélation certaines des mesures avec, donc, déjà entre elles, avant de les mettre en lien avec cette consommation énergétique. Au niveau de la consommation énergétique, moi je pense à un autre travail qui avait été fait. C'était le résultat d'une PR, donc c'est pareil, c'est un projet de recherche. Mais il y a quelques mois, c'était sous l'enseignement de Bertrand Ducourtial sur mesurer la consommation électrique de pages web. Là, pour le coup, on n'était pas du tout dans l'analyse du contenu de la page, mais plutôt par rapport à un ordinateur qui tourne à vide. Effectivement, est-ce qu'on observe des pics de consommation quand on va faire des requêtes ? Effectivement, on s'apercevait qu'il y a des pics de consommation qui étaient bien identifiés. Donc, on faisait une différence entre quand l'ordinateur tournait à vide, mais consommait quand même, et quand il y avait une requête qui était effectuée. Donc, ça pourrait être... Aujourd'hui, on ne le fait pas encore, ça reste un problème, mais une chose qui serait à faire, c'est de pouvoir mettre en lien comment cette consommation électrique peut être liée aux métriques là, qu'on a identifiées, donc le poids de la page... la complexité du DOM, mais également le nombre de requêtes. Pareil sur les choses à faire pour rester dans ce processus de mesure. Ça, je pense qu'Adrien, tu vas pouvoir nous en parler, mais c'est questionner la répétabilité des mesures. Donc on a répété plusieurs fois pour essayer d'avoir des choses fiables, mais on se rendait compte qu'en temps, c'était vraiment pas pratique. Donc il faudrait peut-être réfléchir, parce que tout était fait manuellement, donc il y a des méthodes un peu plus... automatique, je sais pas.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut pas tout mettre sur le fait que nous, on est expérimenté à tâtons. Et ça prend un certain temps de faire des mesures avec des outils dynamiques. On doit vraiment naviguer sur la page. C'est quelque chose qui pourrait être probablement automatisé puisque on n'a pas beaucoup de connaissances là-dessus. Mais normalement, c'est possible de simuler de manière automatique un parcours utilisateur sur un site web. Et donc, ce qui est quelque chose qui pourrait nous permettre d'industrialiser un petit peu cette démarche de mesure pour obtenir beaucoup de mesures et vérifier justement la stabilité des mesures, puisque les pages changent, le contenu change beaucoup et les trackers font que, selon l'historique de l'utilisateur, les mesures vont peut-être être très différentes, par exemple.
Du coup, au cours de notre travail, on a parlé des mesures, du fait qu'elles étaient possibles. On a du mal à voir encore ce qu'elle représente très concrètement. Donc, et finalement, on s'est pas mal écarté de ce sujet de base pour aller plus questionner les outils, ce qui était une démarche qui était super importante, puisque finalement, si on ne sait pas vraiment comment nos outils fonctionnent, ce qu'ils mesurent, et là, nous, on a vraiment mis en avant que, alors ça mesure des trucs, mais effectivement, ça reste encore à creuser, et que s'il donne des résultats, ce n'est pas forcément des résultats qui permettent de se faire une idée complètement précise des liens entre... numérique, site web et environnement. Donc à terme, ce qui serait génial, c'est de pouvoir suffisamment lier les critères qu'on a identifiés pour pouvoir aboutir à une hiérarchie des métriques et par exemple dire il vaut mieux avoir un DOM simple que peu de requêtes ou des choses comme ça. Là, c'est complètement hypothétique. Hein. À terme, ça permettrait encore d'aller plus loin. C'est les bonnes pratiques qui peuvent être identifiées, dont on n'a pas trop parlé, mais en gros, il existe aujourd'hui tout un mouvement de... autour de développement de bonnes pratiques pour faire des sites web qui seraient un peu plus sobres. Tout ça pour dire ouais, effectivement que si on arrive à savoir ce qu'il y a vraiment derrière ces métriques, si on arrive à les mettre en lien, eh bien ces bonnes pratiques, on pourrait vraiment les quantifier et dire telle bonne pratique a vraiment un impact super positif. Par contre, telle bonne pratique relève un peu plus de l'anecdote et donc il ne faudrait pas forcément s'y concentrer. Finalement, donc, on a abouti à des résultats qui sont assez concrets, concret dans le sens qui nous montre qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, mais surtout ce travail, il nous a permis de faire émerger énormément de questionnements. Donc je pense qu'on peut se prendre là une dizaine de minutes pour discuter des grandes questions à partir de notre travail, dans une partie un peu plus interactive certainement, de ce qui a émergé. Mais tout d'abord, donc, on l'avait un petit peu dit en début d'émission, mais c'est quoi l'impact environnemental du web ? Ça peut être déjà une première très grosse question.
C'est quelque chose qu'on n'a pas réellement réussi à estimer précisément, puisqu'on a estimé l'impact, par exemple, approximatif de la des émissions liées aux terminaux utilisateurs ou à la phase d'usage. Mais quand on veut vraiment essayer d'estimer ce qui pourrait les gains potentiels que pourrait avoir une conception de site web frugaux généralisé, là c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui par exemple si on fait des sites web frugaux, on enlève la publicité, qu'est-ce que ça va représenter la publicité si on divise le volume de vidéos qui est transféré aujourd'hui sur le web par deux, qu'est-ce que ça va nous représenter en comparaison à réduire la taille du DOM, réduire le nombre de compresser des images, tout ça en fait on a un peu de mal à voir qu'est-ce que chaque action, c'est trop précis finalement pour avoir des estimations, et dès qu'on sort des études qui sont plus générales, pour le moment on peut pas dire grand-chose, on peut pas se prononcer, je pense qu'à l'heure actuelle c'est... En tout cas, nous, avec notre projet de recherche sur 6 mois, c'était pas suffisant pour avoir une affirmation comme ça.
Pour rebondir dans l'idée, il y a aussi le fait que finalement, c'est des choses qui sont tellement complexes. Nous, on a plus parlé, on s'est plus positionné sur la couche client, sur les aspects front-end. Mais finalement, il y a, comme on l'avait dit en début d'émission, il y a toute la partie sur les serveurs. On a parlé du fait qu'il y avait effectivement les requêtes et qu'on pouvait plus ou moins voir l'activité qui était faite de requêtes sur les serveurs par le nombre de requêtes effectuées. Mais on ne sait concrètement pas ce nombre de requêtes, comment il va être traité, qu'est-ce que ça donne dans les externalités finales. Donc, il y a aujourd'hui cet impact, on n'arrive pas du tout à le mesurer. On en a une idée qui est très partielle. Mais voilà, c'est des choses qui sont extrêmement simplifiées. Il faudra voir comment, si on peut un jour arriver à quelque chose de plus concret.
Peut-être même pour terminer un peu sur cette partie de comment positionner l'impact environnemental du web. Bah, même en séparant comme ça phase d'usage, phase de fabrication, serveur, réseau, ces séparations, elles n'ont pas non plus un sens dans tous les cas de figure, puisque bah, on peut imaginer que faire de l'éco-conception sur un site web, ça va prolonger la durée de vie des terminaux, donc avoir de l'impact sur la fabrication, ça va diminuer le nombre de données stockées sur les serveurs, donc réduire le nombre de data centers. Tout est un peu lié, et c'est difficile d'arriver à isoler un problème spécifique sans bah, avoir le problème dans sa complexité globale.
Est-ce que du coup, si on n'arrive pas à avoir... Est-ce qu'il y a un intérêt à mesurer l'impact environnemental du web ?
On peut dire qu'il y a un intérêt dans le sens où il y a un intérêt à faire de la sensibilisation auprès des utilisateurs et des internautes. Donc ça, d'une part. D'autre part, il y a un intérêt, entre guillemets, un petit peu pour les développeurs et tous ceux qui participent à la construction du web, qui vont pouvoir... si on leur dit, en faisant ça, voici l'impact de votre site, en faisant ci, l'impact il devient comme ça, ça peut leur permettre d'orienter leur développement, ça peut permettre d'instaurer un certain nombre de, peut-être, on pourrait imaginer des lois, ou en tout cas des normes, ou des labels d'éco-conception web. En revanche, il y a une limite à ça, dans le sens où... je pense qu'il faut pas attendre qu'on soit capable de mesurer l'impact environnemental du web, en tout cas d'un site web, parce que peut-être qu'on n'y arrivera pas. Il faut pas attendre ça pour se mettre à définir des pratiques d'éco-conception et surtout à les mettre en œuvre. Voilà. Ce serait l'écueil principal de se dire ah bah d'abord on attend d'être sûr que ça ce soit significatif pour faire telle chose et telle chose, parce que je pense qu'on est en mesure de dire que c'est pas sûr qu'on y arrive du tout, et du coup si ça n'arrive jamais, c'est-à-dire qu'on fait rien, je pense que c'est pas la bonne solution.
Faudrait dès maintenant commencer à remettre en cause les usages, la manière dont on utilise. A-t-on besoin de milliards de vidéos de chatons par exemple?
Exactement, Pierre.
Cette difficulté, et je pense qu'on s'en est quand même pas mal rendu compte lors de notre travail, mais à mesurer tout ça, bon déjà c'est parce que c'est une architecture qui est extrêmement complexe, le web, mais il y a aussi qu'il y a un changement qui est perpétuel. On peut mesurer un site un jour et en fait le lendemain il y a un truc qui a changé, il y a une nouvelle image et du coup ça change. Donc il n'y a pas vraiment aujourd'hui de critères fixes.
Non, comme tu viens de le dire, enfin, du coup là vous venez effectivement moi je voudrais ramener un petit peu peut-être en discussion, parce que vous venez de dire une première chose qui est quand même super importante, c'est que pour moi, c'est quand même le premier résultat de votre travail, c'est que c'est la question même de la mesure en fait que vous avez remis en cause, donc de la possibilité de mesurer. Vous l'avez dit plusieurs fois, je fais juste une très rapide synthèse, mais et d'ailleurs vous me reprenez si elle vous convient pas. Mais d'abord, vous nous avez expliqué que la notion, enfin mesurer un site, en fait, on parle tout le temps de site, mais le mot site il désigne rien de tu viens de le dire, hein, Pierre, mais il désigne rien de que l'on peut facilement cerner, puisque est-ce que c'est une page, est-ce que c'est une pages liées à ces autres pages, comme on le citait tout à l'heure, comme tu le disais Camille, une page infinie, est-ce que c'est une application, on utilise par exemple Mattermost pour communiquer beaucoup à l'UTC, mais est-ce que c'est un site, enfin voilà, donc du coup toute la question de ce qu'il y a derrière ce mot et en tant que tel problématique, donc en vrai on sait même pas exactement ce qu'on mesure quoi, donc il y a quand même l'objet en lui-même. Ensuite vous l'avez dit, même quand on arrive à mesurer des choses et avoir des métriques stables, donc comme vous l'avez dit sur les kilooctets, le nombre de requêtes, etc., la transformation en gaz à effet de serre, terres rares, eau, etc., elle-même pose un deuxième problème qu'aujourd'hui on sait pas bien résoudre. Et en plus, vous l'avez rajouté, je crois que c'est Adrien qui le disait tout à l'heure, même en admettant qu'on arrive à faire tout ça, sachant qu'on n'y arrive pas, du coup ça nous repose ensuite la question de comment positionner ce truc à l'intérieur de l'ensemble des usages du numérique pour savoir si in fine c'est suffisamment significatif ou pas. Alors c'est vrai que si on arrivait vraiment à faire la conversion gaz à effet de serre, etc., on arriverait probablement mieux à répondre à la question 3, mais enfin fondamentalement c'est quand même, moi vous avez quand même mis en lumière cette complexité. J'ai rien oublié là-dedans, ça. Enfin, c'est ce que vous avez raconté. Ah, j'attendais le retour du marteau. Mais alors, donc du coup, moi derrière, je voudrais quand même vous relancer un peu la balle, notamment Camille, quand tu dis bon, au moins ça sert à faire de la sensibilisation. Bah moi, je suis pas sûr d'être 100% d'accord parce que vous l'avez d'ailleurs tout au départ, vous avez même dit, c'est pas transparent. Alors, je suis pas sûr que ce soit pas transparent, mais en tout cas, ce qui est pas forcément transparent, c'est que la quantité de connaissances dont on a besoin, les connaissances scientifiques, etc., sont pas assez stabilisées pour in fine qu'on puisse tenir un discours suffisamment objectif. C'est quand même, enfin, c'était un peu votre point de départ. C'est ce qu'on a brassé là-dedans. Et moi, personnellement, sensibiliser à l'écologie sur une base finalement pas stabilisée, où on va dire aux gens, bah c'est pas bien de faire ça. Bon, en vrai, on n'en sait rien, hein, mais on l'a mesuré avec ce qu'on a mesuré, qu'on critique et qui mesure mal, on vous dit que c'est pas bien. Bah, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée, parce que in fine, ça veut dire qu'on peut le remettre en cause. Hein, vous l'avez montré avec certains exemples. C'est-à-dire que tu vas me dire, ah ben j'ai été regarder ton site Librecours, je l'ai passé dans ma moulinette, là, t'as un dé, c'est pas terrible, donc faudrait faire mieux. Moi, je vais bricoler le truc ou je vais te renvoyer que, bah vas-y, explique-moi pourquoi c'est dé, comment il est calculé ton dé. Non, ben je sais pas trop comment il est calculé, mais quand même, bah ouais, mais enfin si tu sais pas comment il est calculé, comment tu peux me dire que j'ai dé, quoi. Tu vois. Et du coup, moi, je trouve que c'est quand même un problème en tant que tel de se baser sur des mesures, sur une démarche qui se veut rationnelle, scientifique, etc., pour faire de la sensibilisation, tout en expliquant que cette rationalisation, cette démarche scientifique, etc., bah, en vrai, elle tient pas bien, quoi. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais moi, du coup, ça m'interroge même pour faire de la sensibilisation.
C'est une critique que je comprends entièrement, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un intérêt dans la mesure où peut-être que dans nos cercles restreints, enfin, de à la fois informaticien, on va dire, et à la fois sensible aux questions environnementales, on a conscience de la matérialité du numérique et que le fait d'ouvrir son PC et d'envoyer un mail, en fait, ça correspond pas à du rien. En fait, il se passe tout un tas de choses derrière. Il y a un serveur qui tourne, il consomme de l'électricité, même beaucoup, etc. Il a fallu construire l'ordinateur, nanani nanana. Ça, c'est des choses dont on a conscience, mais qui, je pense, sont vraiment complètement invisibles à l'œil du grand public. Et en l'occurrence, ces sites-là sont des sites qui sont destinés au grand public. Alors, je sais pas s'ils ont, ils sont aussi connus qu'ils les aimeraient l'être, mais sur certains sites, parfois, on peut voir Eco-Index donne telle note. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et en effet, on peut dire que, de toute manière, puisqu'on est sûr de rien, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, je pense que oui, parce qu'en un sens, ça rappelle dans tous les cas que, quelque part, que la note soit bonne ou pas, que ça se trouve, ça se plante complètement, et puis le site a été un petit peu pernicieux et a contourné, et puis du coup, il dit qu'il a une note de B alors qu'en fait, il a une note de D. Bon, ben, quelque part, tant pis, je pense que c'est juste important que, en un sens, ça rappelle à l'utilisateur que ce que tu fais, ça a un impact, qu'il soit petit ou grand, il y en a un, déjà.
Il y a un truc, ça me fait penser à ça. Du coup, là, on parlait du fait qu'il commence à y avoir des sites qui mettent en avant, par exemple, leur score Eco-Index ou Website Carbone. On a vraiment tendance à une labellisation. Regardez, j'ai 90 sur 100 grâce à Eco-Index. C'est que mon site, il est vert et tout. Et quand on commence à être dans cette démarche, alors, ça peut marcher sur la sensibilisation, dans le sens où, du coup, les gens se rendent compte que, puisqu'il y a des indicateurs qui existent, ça veut dire qu'il y a un poids qui a une conséquence environnementale de ces sites web, et peut-être que ça peut les rendre un peu plus aware de tout ce qui se passe derrière, même si en soi ça donne pas grand chose de te dire bah j'ai 90 sur 100 sur Ecoindex alors que bah toi t'as jamais, tu sais pas ce que ça veut dire, donc bon, mais bon, au moins il y a un A, c'est une jolie lettre et c'est vert, donc ça, c'est beau. Mais c'est qu'on peut très rapidement tomber dans l'écueil du greenwashing quand on se met à dire bah ok, j'ai 90 sur 100 donc je suis un site vert. C'est l'idée que finalement quand on se met à évaluer, ça devient, l'évaluation devient décision, on se met à prendre des évaluations et ça devient des critères de ah bah c'est vert donc c'est bien, alors que derrière par exemple un site qui se met à annoncer eh ben moi j'ai que 80 kilooctets sur sa page, mais comme on l'a dit dans l'APR c'est super comme on l'a dit pardon dans l'ATX c'est assez flou parce que bah toi quand tu fais la mesure de ton côté bah en fait t'en trouves 160 et du coup qui croire, ça fluctue, donc c'est pas à remettre en cause son chiffre, mais c'est le fait de se dire bah mettre en avant des métriques en tant que critère vert, on tombe dans une écueil de greenwashing qui n'est pas forcément une attitude positive à avoir pour espérer aller vers un web un peu plus sobre, quoi.
Oui, je suis assez d'accord avec ça et je voulais même rajouter que, en fait, je pense que ces outils sont à destination du grand public, enfin d'un grand public restreint, de personnes qui s'intéressent un petit peu à ça et qui vont aller cliquer pour voir les pages. Ça ne veut pas dire non plus que les personnes vont remettre en cause le calcul de l'outil. Et donc, du coup, ces notes, elles vont être prises comme, au pied de la lettre, comme elles sont produites par des experts, les experts, s'il peut y en avoir sur ce domaine, qui sont aujourd'hui reconnus, greenit.fr, qui fait figure un peu d'experts dans ce domaine. Et ne pas les remettre en cause, ça veut aussi dire qu'on peut croire que si tous les sites avaient une note de A, l'informatique serait complètement soutenable et du coup ne pas se poser peut-être des vraies questions qui sont cachées derrière et se contenter de cette note et de se satisfaire de ça, et je pense que ça peut être assez dangereux.
On est un peu aux limites d'un paradigme qui part du principe qu'en fait, c'est très marrant, on revient au début, mais qu'il faudrait tout mesurer et tout ça, mais là on arrive face à quelque chose qui nous dépasse complètement, qui est tellement complexe qu'on peut pas le mesurer dans son intégralité, donc on sait pas trop quoi faire. Ça pourrait être, ça peut poser la question, du coup, on en parlait en tout début d'émission, je vais certainement du coup vous repasser la parole, mais sur la low technicisation du web, puisqu'on est obligé de changer d'approche, puisqu'on se rend compte que là, il y a des limites de la mesure même.
Ouais, tout à fait, on est au cœur de la discussion de cette idée, de ce concept, hein, sur lequel qui est vraiment un point de départ. Donc quelque part, j'ai pas la réponse, mais la question de la mesure en tant que telle, effectivement, là, elle va se poser. Je peux peut-être rebondir aussi sur ce que tu disais, Adrien, tout à l'heure, disant qu'à partir de 94, quand je suis arrivé à l'ITC en tant qu'étudiant, mais effectivement, c'est là où on a commencé à voir le web, les mails, etc. Donc effectivement, comme tu l'as dit, c'était beaucoup beaucoup plus simple. Donc là où on a une forme de mesure, c'est ces courbes exponentielles dont on parlait tout à l'heure. Alors on peut pas dire évidemment que c'était le même web ni qu'on y faisait les mêmes choses, hein, je vais pas vous mentir, mais on peut se demander s'il y a pas toute une partie importante de ce qu'on fait aujourd'hui qui pourrait pas y ressembler. On a cité plusieurs fois Wikipédia. Fondamentalement, Wikipédia aujourd'hui, c'est pas ultra différent de ce qu'on avait à l'époque. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a la mécanique d'édition qui est derrière. Mais en tout cas, dans toute la mécanique de consultation, on est sur des formats qui restent assez proches de ce qu'on faisait. Après, si on pense quelque chose comme la diffusion de vidéos, c'est pareil. En tant que tel, on est sur des fonctions assez simples. Alors après, c'est la question de la quantité de vidéos, la question de la qualité de vidéos qu'on transmet. Là, on voit qu'on a tout de suite des ordres de grandeur qui se comptent en puissance de 10, quoi. C'est-à-dire qu'on parle là de multiplier, je disais par 10 millions tout à l'heure, mais on multiplie évidemment par des ordres de grandeur très très grands. Bref, juste pour refaire un petit point, il me semble aussi que c'est, du coup, c'était peut-être Camille qui en parlait, à un moment du côté, il y a des choses en quelque sorte un peu évidentes, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on sent, quoi. Il y a des choses que l'on peut ramener à une perception qui n'ont pas forcément besoin d'être mesurées. Bref, d'une façon générale, l'articulation, l'autotechnicisation, c'est-à-dire une sorte d'évidence vers le fait d'aller chercher des choses plus simples, plus accessibles, plus faciles à maintenir dans le temps, plus durables, etc. Et la question de la mesure vont s'articuler. Alors, soit la mesure est absolument nécessaire, et à mon sens, en tout cas dans ce cas-là, il faut qu'elle soit fiable. Et si on n'y arrive pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Soit, in fine, on arrive à trouver des voies, peut-être plus effectivement, sensibles, intuitives, de sens commun, dans lesquelles on va pouvoir s'engouffrer. Mais là, pour moi, c'est le début d'un d'un sujet, c'est pas du tout la conclusion.